ça me ramène un peu dans l'église où j'ai grandi, qui était elle aussi dans une zone industrielle, qui était à peu près de la même taille que la vôtre. On avait aussi des petits bugs avec les numéros des champs. On avait, je me retrouve dans le contexte. Je revois aussi quelques têtes que je connais du feu à Lille. Et puis je vais essayer de faire un petit effort pour garder les enfants attentifs avec nous, s'ils restent là. Peut-être il y a quelque chose frustrante que vous vivez ou que vous avez vécu dans vos vies, que vous avez faite. Ou que vous êtes en train de faire et vous vous dites, mince, ça m'apporte pas finalement ce que j'aurais cru. Ça m'apporte pas ce que j'aurais voulu. Et peut-être il y a une part de frustration, soit qu'on garde pour nous, soit des fois qu'on peut rejeter sur Dieu. On va un peu parler de ça ce matin. On va lire un texte écrit par un roi. Alors peut-être les enfants peuvent essayer de réfléchir aux rois qu'ils connaissent dans la Bible. C'est un roi qui était roi à Jérusalem, et c'est un roi surtout qui était très sage. Dieu lui avait donné une très très grande sagesse. Et avec cette sagesse, il a observé le monde autour de lui, et il a réfléchi avec tout ce qu'il observait. Il a tiré des conclusions de tout ce qu'il a observé. Et il a écrit un livre dans la Bible pour nous donner les enseignements par rapport à ce qu'il a observé et ce qu'il a appris. Alors ce livre, c'est le livre de l'Ecclésiaste, plus communément attribué à Salomon. Et l'Ecclésiaste, littéralement, ça veut dire l'enseignant, celui qui donne un discours. Donc, on est en train de lire le discours de cet homme qui donne plutôt sur la fin de sa vie. Et le fait qu'il était roi, eh ben, ça lui a donné certaines libertés dans sa vie, que peut-être on n'a pas au quotidien. Il a pu tout essayer parce qu'il avait le pouvoir de le faire. Alors il a eu énormément de connaissances. Les gens venaient de loin, les rois même des autres pays venaient pour le consulter, pour poser des questions, peut-être par curiosité, qui est cet homme qui a une si grande sagesse? Il a essayé la sagesse, mais il a aussi essayé la folie. Il a eu toute la richesse qu'il voulait. Il a accompli de grands projets, il s'est lancé dans de grands travaux. Il a essayé la joie, le rire, il a essayé l'alcool, il a essayé un grand nombre de femmes. Et il arrive à la fin de sa vie, il fait le bilan. Et il conclut que tout ça est éphémère. Tout ça est passager. La vie est brève. Et il utilise le symbole de la vapeur, de la fumée, pour dire qu'elle est insaisissable. Quand tu penses l'attraper, elle s'échappe entre tes doigts. On pense avoir quelque chose, arriver enfin à quelque chose, accomplir quelque chose, et ça nous file entre les doigts. La vie n'était peut-être pas aussi satisfaisante qu'il le pensait. Alors le schéma global du livre, si je le coupe en deux, on peut dire que l'auteur fait d'abord un constat sur la condition humaine et il va dire vanité. Mot que vous avez peut-être souvent entendu déjà dans la Bible, vanité ou alors fumée, vapeur. Et puis ensuite, il va donner peut-être des conseils plutôt pour vivre dans cette vanité. Comment vivre dans cette vapeur? Qu'est-ce qu'elle nous apprend, cette vapeur? Donc on a ce constat de la vanité, mais son constat n'est pas sa conclusion. C'est pas juste un auteur négatif qui voit toujours le verre à moitié vide. C'est un auteur qui pensait que le verre était plein, il a couru après et quand il l'attrapait, il était toujours vide. S'il fait ce constat de la vanité, c'est pas juste pour nous dire, voilà, vanité, repartez avec ça. Il nous dit que la vie est pleine de vanité pour ensuite nous donner une conclusion, pour nous apprendre à vivre au sein de cette vie. Que faire de ce verre vide une fois qu'on l'a attrapé et qu'on a été déçu? Alors ce matin, on lira dans le chapitre 3 de l'Ecclésiaste et on verra une comparaison entre ce que font les hommes et ce que Dieu fait. Alors, si vous voulez suivre, je vais d'abord lire une première partie dans Ecclésiaste chapitre 3, mais je vais lire les 9 premiers versets. Il y a un moment pour tout et un temps pour toute activité sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour en ramasser. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour détester. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Mais quel avantage celui qui agit retire-t-il de la peine qu'il se donne? J'arrête ici la lecture pour cette première partie. Première partie, l'activité humaine. Quel avantage celui qui agit retire-t-il de la peine qu'il se donne? Ce qu'on peut déjà observer sur cette première partie, c'est que au verset 9, l'auteur donne une conclusion qui donne une connotation plutôt négative aux 8 premiers versets. Donc quand il fait toute sa poésie sur un temps pour, c'est pas juste une liste d'activités comme un constat neutre sur le temps qui passe et le fait que les activités sont séparées les unes des autres. C'est pas juste non plus un encouragement pour nous dire que du bon arriverait après du mauvais ou que les choses s'équilibrent de cette manière. Non, il décrit toutes ces activités et conclusion, il semble un peu déçu. Dépité, quel avantage l'homme qui agit retire-t-il de la peine qu'il se donne? Alors si vous avez déjà assisté à des mariages ou si vous avez des amis qui se sont mariés ou si vous vous êtes marié vous-même, vous avez sûrement déjà entendu un constat qui est à peu près similaire à tous concernant l'organisation du jour du mariage. On entend très souvent, si c'était à refaire, je ferais autrement, peut-être plus simple. Peut-être juste je profiterais plus du moment et je m'embarrasserais moins avec les détails. On a passé des mois à préparer un événement, on a passé des heures à décorer la salle, à écrire le nom des invités sur un papier pour que ce soit beau, et toutes sortes d'autres choses, et le lendemain, en 20 minutes, il n'y a plus rien sur la table. Personnellement, je ne regrette pas ma décoration de mariage. Je suis content, c'était beau et c'était festif, et je pense que ça a quand même une certaine valeur. L'Ecclésiaste ne nous dit pas que ça n'a pas de valeur, et qu'il vaut mieux ne rien faire. Mais si je compare le temps passé à préparer et l'avantage que j'en retire, il nous dit, une fois que c'est terminé, quand même, ça laisse une petite touche de tout ça pour ça. C'est déjà fini. Maintenant, imaginez ce constat à une grande échelle, à l'échelle de toute sa vie. Notre enseignant, qui était roi, il regarde à tous ses projets, tout ce qu'il a commencé, toutes ses entreprises, ses constructions. Et c'est ça ce qu'il se dit à la fin de sa vie. Quel avantage on retire de toute la peine qu'on s'est donnée? Que reste-t-il? Alors, vous avez sûrement remarqué que dans cette liste, chaque chose est accompagnée de son contraire. Chaque action est finalement annulée par une autre. Pourquoi est-ce que l'auteur fait ça? Eh bien, on peut regarder un peu plus loin. Dans la deuxième partie, on prend de l'avance, au début du verset 14. Ça nous aide un peu à comprendre, parce qu'on voit un contraste avec ce que Dieu fait. Et au verset 14, il dit: j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit. Alors qu'est-ce qui semble donner cette touche négative sur l'activité humaine? Eh bien, ce que fait l'homme, ça ne dure pas. L'humanité est soumise à l'inconstance. L'humanité est soumise à l'éphémère, à la fragilité, au périssable, et finalement, à la mort. Si on regarde les exemples que nous donne l'auteur, ça commence comme ça. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Notre vie fonctionne sur ce principe. Elle ne dure pas. Dans une vie humaine, il y a une naissance et une mort, quoi qu'il y ait au milieu. Ensuite, il y a un temps pour planter et un temps pour arracher. L'exemple type de l'éphémère, du cycle qui se répète sans fin. Et heureusement qu'on plante et qu'on arrache. Mais ça illustre bien ce cycle qui se répète sans fin. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a quelques années, pardon, avec notre église à Lille, on a acheté un local pour se réunir, qui était à l'époque dans les maisons. Et avant nous, il y avait un garage dans ce bâtiment. Et on a dû tout reconstruire. Mais quelqu'un, avant, avait acheté ce bâtiment, avait fait un garage, il avait investi, il avait construit. Et aujourd'hui, si vous venez, vous verrez aucune trace de garage. Et ça illustre et ça nous aide peut-être aussi à voir quelque chose dans l'Église, que très probablement, ce que nous aussi on est en train de construire, peut-être ce qu'on construira, ça finira tôt ou tard par être détruit. Un temps pour les embrassades et un temps pour s'éloigner des embrassades. Vous avez peut-être connu déjà des séparations qui sont tellement douloureuses qu'on en arrive sérieusement à se poser la question, est-ce que ça vaut toujours la peine de se voir ? Vu la tristesse que la séparation provoque, est-ce que vraiment j'en tire un avantage sur le long terme ? On rencontre des gens, on devient amis, et au bout d'un moment, on s'éloigne. Que ce soit par la distance, par les circonstances de la vie, ou à la fin, par la mort. Ma grand-mère, c'est la dernière d'une fratrie de 12 frères et sœurs. Et c'est la plus jeune, et elle a passé sa vie à faire des efforts pour rester proche de toute sa famille, réunir tout le monde tous les étés, faire des grandes fêtes de famille, appeler les uns les autres, essayer de résoudre les conflits. Et aujourd'hui, elle fait le constat, nous ne sommes plus que deux sur cette terre. Aussi bonnes que les relations aient pu être, les relations sont destinées à se finir. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Est-ce que vous avez déjà déménagé une famille qui vivait dans la même maison depuis 30 ans ? Oui, peut-être. Si oui, j'imagine que ça peut vous parler. Il y a un moment pour garder et un moment pour jeter. Et peut-être qu'au sein d'un même couple, les deux n'ont pas la même vision de quand est le bon moment pour garder ou le moment pour jeter. Il y en a un qui veut toujours garder parce que ça peut toujours servir, et l'autre qui veut jeter parce que, en l'occurrence, ça ne sert à rien. Et ce texte ne nous donne pas la solution quand est le bon moment pour faire quoi. Mais il nous dit qu'il y a un moment pour ces deux choses, et qu'une action va toujours finalement annuler la première. Un cycle qui se répète et qui s'annule. Le constat de l'auteur, ici, sur la terre, tout passe, tout a une fin. Que ce soit les petites choses, les grands projets, même ma propre vie. Et on ne peut pas changer ça, même si on peut penser à des exemples qui ont quand même vachement changé les choses. Et peut-être que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, avec de grands projets, et que vous comptez bien changer les choses. Et peut-être que vous allez faire des découvertes du genre Louis Pasteur qui invente le vaccin et qui va concrètement impacter le monde. Ou peut-être quelqu'un comme Martin Luther King qui va bouleverser toute sa société avec un message de paix. Mais ça ne change en rien le constat de notre auteur. Que ce soit avant ou après Louis Pasteur, il y avait un temps pour naître et un temps pour mourir. Que ce soit avant ou après Martin Luther King, il y avait un temps pour la guerre et un temps pour la paix, un temps pour aimer et un temps pour détester. Et quel avantage je retire de toute la peine que je me suis donnée. Peut-être que vous n'aspirez pas à être quelqu'un d'exceptionnel, pas à changer le monde, juste avoir une vie simple, juste gagner le nécessaire chaque jour pour avoir un logement, se nourrir, nourrir sa famille, mener une vie paisible. Et quand les enfants auront grandi, quand ils seront plus à la maison, quand les préoccupations des enfants seront plus tournées vers les générations qui viennent, plutôt que sur les générations d'avant, ou quand peut-être je serai trop âgé pour garder mon logement, quand il m'en faudra un plus petit, quel avantage je retire de tout ce que je me suis donné comme peine? Et on n'échappe pas à ce constat de l'Ecclésiaste, même en servant Dieu toute sa vie. On peut servir Dieu pendant des décennies, on peut enseigner la Bible dans toute la France, à travers le monde, donner des conférences, et peut-être recevoir toute la gratitude du milieu évangélique. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passera un jour? Je passe le témoin, la nouvelle génération prend le relais, les responsabilités d'église, l'enseignement, sous le ciel, sur la terre, je retire quoi de toute la peine que je me suis donnée? Et peut-être encore que j'ai déjà lu l'Ecclésiaste, je suis bien conscient de tout ça, et j'ai décidé de ne pas me donner trop de peine dans la vie. Ne pas me donner trop à fond, parce que j'ai compris, tout est vanité. Et alors, quand je serai plus âgé et un peu affaibli, que je ne pourrai plus faire les mêmes choses que je faisais avant, alors je pourrai regarder en arrière et me dire « Super, j'ai bien économisé mes efforts. » Non, vous avez bien compris, j'imagine, à travers ces exemples, quelle que soit la situation, même si j'ai pris conscience de cette vanité dont parle l'Ecclésiaste, je n'y échappe pas. C'est la condition humaine. Alors peut-être que le constat peut sembler un peu déprimant. Est-ce qu'il y a un espoir dans tout ça? Je disais au début que la vanité n'est pas la conclusion de l'Ecclésiaste. C'est son constat. Mais alors, que conclure? Comment réagir avec sagesse face à ce constat qui peut sembler déprimant? Eh bien, l'auteur va nous inviter à regarder au-delà de notre propre activité, au-delà de nos œuvres, et il va nous emmener voir plus haut. Donc on va lire les versets qui suivent pour la deuxième partie, ce que Dieu fait. Et donc on va lire les versets 10 à 15. J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. J'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie, et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. J'ai reconnu que ce que Dieu fait durera toujours, sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit, et que Dieu agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. Ce qui existe a déjà existé, tout comme ce qui existera, et Dieu ramène ce qui est passé. J'arrête ici la lecture pour cette deuxième partie. On lève les yeux pour contempler Dieu, et on assiste à un contraste fort. Nous, on est soumis au temps qui passe, aux circonstances qui changent, au cycle éphémère de nos activités. Dieu, lui, il domine au-dessus. C'est Dieu qui réserve cette occupation aux humains. Et il le fait comment? Il le fait bien. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Donc si Dieu réserve cette condition pour les humains, il fait bien. Il fait toutes choses belles. Alors on pourrait réagir au quart de tour, mais comment ça? Comment est-ce qu'on peut faire un constat si négatif, puis reconnaître que c'est Dieu qui a décidé ça, et dire qu'il fait bien? C'est pas cohérent? Eh oui, pourquoi Dieu fait bien en nous laissant dans cette vapeur? Allons-y. En plus de nous garder dans ces cycles éphémères de la vie, Dieu nous donne la pensée de l'éternité, comme une envie de quelque chose qu'on n'a pas, qu'on ne peut pas vivre, comme un rêve de quelque chose d'inaccessible. En fait, si c'est possible de faire ce constat sur l'activité humaine, c'est bien parce qu'on a en nous cette pensée de l'éternité. On se rend bien compte que d'une certaine manière, ça ne suffit pas. On a soif de plus. La pensée de l'éternité dans nos cœurs nous fait voir qu'on est comme une toute petite pièce dans un immense puzzle. Un puzzle infini. Même si on pouvait le voir, il nous dépasserait complètement parce qu'il est infini. Je ne peux pas le comprendre. Je ne peux pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit, mais juste, je peux saisir l'idée que je ne suis qu'une pièce de ce puzzle. Et des fois, on aimerait bien le comprendre, ce puzzle. On aimerait bien comprendre l'œuvre de Dieu. Et des fois, on essaye. On s'y risque. Si ça s'est passé comme ça, c'est parce que... Ou si Dieu a permis ça, c'était pour que... Attention. Attention à essayer de comprendre ce qui nous dépasse. Cherchons plutôt à rester attachés à la confiance en Dieu, qu'il est bon, qu'il fait toutes choses belles, même si on ne comprend pas. L'auteur écrit, verset 12, « J'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie. » Et verset 13, « Et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. » Peut-être que vous avez des projets, des grands projets, et que vous aimeriez des réponses de Dieu sur ces projets. Lui qui a cette vision du grand puzzle, lui qui maîtrise les temps, ce serait quand même plus simple. Seulement voilà, à nous, Dieu nous a donné de vivre notre petite pièce du puzzle. Juste notre pièce. Dans la suite du chapitre, l'auteur écrira « Voilà quelle est sa part ». En parlant de l'être humain. Voilà quelle est la part qui nous est confiée. C'est le moment qu'on peut vivre maintenant. Comme si Dieu nous disait, tiens, voilà un jour. Je te confie ce jour. Tu ne vois pas la totalité de ce qui se passe. Et puis après ce jour, il y en aura peut-être un autre, et puis encore un autre, et encore un autre. Et en réalité, quand on se réveille le matin, on ne sait pas comment sera le soir. Alors peut-être qu'on pourrait dire, tiens, voilà une heure. Voilà une seconde, voilà l'instant que je te donne. Et à cet instant, l'auteur nous dit, agis bien. Agis bien à l'instant que Dieu te donne. Est-ce que j'agirai bien demain ou dans 10 ans? Je ne sais pas. J'espère, mais je ne sais pas. Tout ce qui m'est confié, c'est cet instant. Je ne peux pas accumuler les bonnes actions pour prendre de l'avance sur ma vie. Je peux juste bien agir à l'instant qui m'est confié. Ça m'encourage à la fidélité, à la persévérance, dans les petites choses, au quotidien, dans ce qui est devant moi et que Dieu me confie. Et l'auteur dit aussi, il a reconnu une chose, c'est que le plaisir qu'on prend dans la vie est un cadeau de Dieu. Ça revient souvent dans ce livre de l'Ecclésiaste, et des fois c'est un peu étonnant. On a ce roi qui a tout essayé, qui s'est livré à toutes sortes d'excès, de plaisirs, et qui, sur la fin de sa vie, constate qu'il s'est trompé dans sa manière de vivre. Et pourtant, il va souvent revenir sur ses plaisirs. En fait, si je poursuis le bonheur ou le plaisir de tout mon être, avec toute ma vie, quand je croirais le saisir, il va s'échapper entre mes doigts. Mais si j'aime Dieu de tout mon être, avec toute ma vie, et si je cherche à bien agir pendant toute ma vie, alors je saisirai par-ci par-là, avec les instants que Dieu me donne, les plaisirs que Dieu me donne. Et je les savourerai comme des cadeaux. Pas comme s'ils étaient l'objectif de ma vie, mais comme des cadeaux que Dieu m'a donnés sur le chemin. Si je fais du plaisir mon objectif, à coup sûr je finirai par dire, comme l'Ecclésiaste, « vanité ». Dans le film Into the Wild, pour ceux qui connaissent, tiré d'une histoire vraie, un homme part seul vivre dans la nature. Et les derniers mots qu'il écrit dans son journal, avant de mourir, « Le bonheur n'est réel que s'il est partagé. » Le bonheur n'est réel que s'il est partagé. Même si c'est beau, je suis au regret de lui dire que l'Ecclésiaste n'approuve pas cette conclusion. Le bonheur n'est réel que s'il n'est pas l'objectif ultime. Le bonheur est réel lorsqu'en suivant Dieu, on prend conscience que tout est un cadeau de lui. Le verset 14 que j'ai lu tout à l'heure nous rend ce contraste ultime entre l'activité humaine et celle de Dieu. J'ai reconnu que ce que Dieu fait durera toujours, sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit. Et Dieu agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. C'est l'éphémère comparé à l'éternel. Pourquoi cette comparaison? Pour qu'on éprouve de la crainte devant lui. Comment est-ce qu'on est censé craindre Dieu en sachant tout ça? Eh bien, envers nous-mêmes, humilité. Humilité de reconnaître l'éphémérité de tout ce qu'on va faire. Envers Dieu, respect, parce que ce qu'il fait dure toujours. Obéissance, pour l'instant qu'il me confie. Confiance, qu'il est au-dessus et qu'il fait toutes choses belles. Est-ce que je dois tout arrêter, ce que je fais, abandonner tous mes projets, parce que de toute façon, ils sont dérisoires? Non. Je dois mener mes projets pour plaire à Dieu, en lui obéissant avec humilité, jour après jour. Et au verset 15, la boucle est bouclée. Ce qui existe a déjà existé, tout comme ce qui existera, et Dieu ramène ce qui est passé. Les cycles de la vie humaine qui se répète, et c'est Dieu qui domine dessus. Alors, malédiction ou bénédiction, cette condition humaine? Dieu nous livre à cela pour qu'on aspire à plus que sous le ciel. Qu'on aspire à plus que la vie sur la terre. Admettons que vous emmeniez vos enfants en vacances. On va dire enfants plutôt en bas âge. Vous êtes très impatient de voir leurs yeux briller devant un coucher de soleil sur la mer, de leur faire découvrir des plats exotiques. Et vous avez beaucoup économisé, beaucoup dépensé pour les emmener au plus bel endroit sur Terre. On fait les valises, tout le monde est dans la joie, on est dans l'avion, tout le monde est excité, on arrive à l'hôtel. L'impatience est au maximum. Et une fois ici, une fois à l'hôtel, tout ce que veulent les enfants, c'est rester dans la chambre d'hôtel parce qu'il y a une télé. Et on aimerait leur faire comprendre qu'il y a plus, qu'il y a quelque chose de grand qui les attend dehors. Mais ils s'attachent à ce qu'ils ont sous le nez, la télé. Le pasteur Florent Varac disait une phrase qui m'a marqué. Nous, les humains, on ressemble trop à des enfants qui jouent dans la boue et qui disent « c'est génial !» Alors qu'on a tellement d'autres choses encore, même si des fois ça peut être génial de jouer dans la boue. Dieu nous fait vivre cet aspect dérisoire et éphémère de la vie, tout en nous laissant ce goût d'éternité pour qu'on aspire à plus, pour qu'on ne regarde pas à nos petites années sur Terre et qu'on se dise « c'est bon, tout est là ». Tout ce dont j'ai besoin est là, sur la terre. Ce que Dieu veut pour nous, c'est une place avec lui, dans son royaume, dans son palais, à sa table. Bien sûr qu'il ne veut pas qu'on établisse notre domicile éternel devant la télé de l'autel. Dieu nous aime trop pour nous laisser devant la télé de l'autel, alors qu'il a tellement d'autres choses à nous offrir. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul parle aussi de cette chambre d'hôtel, avec d'autres mots. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, les deux premiers versets, il dit « Nous savons en effet que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Et nous gémissons dans cette tente, avec l'ardent désir de revêtir notre domicile céleste. » Dans ce chapitre de l'Ecclésiaste, Dieu nous dit qu'il a voulu l'éphémérité de nos vies pour qu'on réalise qu'on est juste dans une tente et qu'il a prévu plus. Et la bonne nouvelle, c'est qu'un chrétien qui est uni à Jésus par la foi, il a la grâce de pouvoir entrer dans son royaume. Alors, ce que je considérais avant comme mon palais sur la terre, tout à coup, la perspective change. Et on peut dire avec l'apôtre Paul que ce n'est plus qu'une tente provisoire, éphémère. Juste une tente en comparaison avec ce qui est à venir. Et peut-être que certains sont venus ce matin en ressentant cette fatigue intérieure, cette lassitude de mener une vie qui semble tourner en rond. Et peut-être que ce malaise n'est pas si mauvais. Peut-être qu'il est même une bénédiction, un appel bienveillant de celui qui peut donner du sens. Dieu a mis le goût de quelque chose d'éternel dans nos cœurs. Pas pour vivre toute la vie dans la frustration, mais pour nous appeler à lui faire confiance. Que lui est au-dessus de tout ça. Lui peut nous guider. Et en devenant chrétien, notre foi ne va pas effacer cette réalité de la vie. On n'est pas non plus censé comprendre toutes les raisons derrière chaque événement. Ce que je constate un peu dans ma vie, mais surtout avec le témoignage de mes aînés dans la foi, c'est qu'avec le temps, on cherche de moins en moins le sens derrière les événements et de plus en plus la confiance au sein des événements. Et même sans tout comprendre, on peut continuer dans notre quotidien sans qu'il ait radicalement changé. Peut-être dans notre routine quotidienne de caissier, d'ingénieur, d'enseignant, d'infirmier, de je ne sais pas quelle autre profession ou activité dans cette salle. Et au lieu de s'arrêter aux frustrations de ces activités, juste voir une occasion de bien agir pour la gloire de Dieu au sein de cette activité. Et peut-être sans comprendre plein de choses, mais en faisant confiance à Dieu que lui est au-dessus et qu'on peut lui rendre gloire, même à l'aveugle. Parce que certes, on marche souvent à l'aveugle dans cette condition humaine, et pourtant, on sait où on va, grâce à Dieu. Dieu nous donne et nous aide à marcher à l'aveugle tout en sachant où on va, cette semaine et pour la suite. Amen.